Aujourd'hui, nous ouvrons ce journal avec un développement majeur pour la RDC. Les dirigeants africains se sont officiellement engagés à soutenir un nouveau processus de paix destiné à mettre fin au conflit qui déchire l'est de la République démocratique du Congo depuis plusieurs années. Cette initiative marque une étape importante dans la recherche d'une solution durable. Pour la mener à bien, l'ancien président du Botswana, Mogwetsi Mazizi, a été nommé au sein d'un panel de facilitateurs de haut niveau, chargé de diriger un dialogue inclusif impliquant toutes les parties prenantes.
Cette annonce a été faite à l'issue d'un sommet virtuel conjoint réunissant deux organisations régionales majeures, la Communauté d'Afrique de l'Est et la Communauté de développement de l'Afrique australe. Le panel désigné réunit également des figures politiques africaines expérimentées, parmi lesquelles Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya, Kgalema Motlanthe, ancien président d'Afrique du Sud, Catherine Samba Panza, ancienne présidente de la République centrafricaine, ainsi que Salwork Zewde, ancienne présidente d'Éthiopie.
Le sommet a tenu à saluer les présidents Félix Tshisekedi de la RDC et Paul Kagame du Rwanda pour avoir accepté de privilégier la voie du dialogue afin de trouver une issue pacifique. Cette volonté de discuter intervient malgré une reprise des hostilités sur le terrain, notamment contre les rebelles du M23, un groupe armé que Kinshasa accuse d'être soutenu par Kigali.
Sur le plan humanitaire, les conséquences du conflit sont lourdes. Depuis janvier 2025, plus de 70 000 personnes ont quitté leur foyer dans l'est de la RDC pour se réfugier au Burundi, dans l'espoir d'y trouver sécurité et assistance. Ces personnes fuient non seulement les affrontements, mais aussi l'insécurité généralisée et la perte de leurs moyens de subsistance.
La majorité des nouveaux arrivants burundais provient de localités particulièrement touchées par les violences, Uvira, Walungu, Bukavu, Sake, Minova et Goma. Face à cet afflux, le gouvernement du Burundi a décidé d'accorder le statut de réfugiés prima facie aux Congolais arrivés depuis le début de l'année, leur garantissant ainsi une protection immédiate et l'accès à l'aide humanitaire. Le défi humanitaire reste immense.
Dans le même temps, plus de 23 000 Burundais sont rentrés chez eux depuis la RDC, illustrant la complexité des mouvements de population dans cette région frontalière. Ces allers-retours, motivés par les évolutions du conflit et par des espoirs intermittents de stabilité, montrent que la recherche de la paix reste un impératif tant pour les populations déplacées que pour les dirigeants régionaux.
Passons maintenant à l'environnement. Le Congo-Brazzaville intensifie ses actions contre le changement climatique et finalise une politique nationale climat-biodiversité. Quelles sont les mesures concrètes engagées sur le terrain ?
Le pays mise sur l'agriculture intelligente face au climat, l'agroforesterie et la reforestation. Un projet emblématique est le barrage hydroélectrique de Sunda, évalué à 4 milliards de dollars. À terme, il pourrait produire 800 mégawatts, soit assez pour alimenter une ville de plusieurs millions d'habitants.
Le Congo a aussi obtenu une accréditation au Fonds vert pour le climat. À quel point cela change-t-il la donne pour le financement de ces initiatives ?
C'est un levier essentiel. Cela facilite l'accès aux financements internationaux, souvent bloqués par des obstacles administratifs. À titre d'exemple, selon une étude de la Banque mondiale, ce type d'accréditation a permis à d'autres pays africains de multiplier par 3 le volume de projets climatiques financés.
Face à l'urgence climatique, certains critiquent la lenteur des mesures mondiales. Comment le Congo articule-t-il ses efforts nationaux avec les appels à l'action internationale ?
Le Congo cherche à démontrer que les solutions locales, comme la restauration des forêts tropicales, sont indispensables à la lutte globale. Mais il presse aussi les grandes puissances d'honorer leurs engagements financiers, car le coût de l'inaction serait bien plus élevé selon l'ONU.
La dette mondiale a atteint le chiffre sans précédent de 324 000 milliards de dollars en 2023, englobant les emprunts des gouvernements, des entreprises et des ménages. Bien que ce soit un record, le ratio dette mondiale, PIB, a en réalité reculé pour la troisième année consécutive, d'environ 2 points de pourcentage pour s'établir à près de 330%. Cette baisse reflète une croissance économique qui, dans certaines régions, progresse plus vite que l'endettement, notamment dans les marchés émergents.
Cependant, les économies développées, dont les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni et la France ont enregistré les plus fortes hausses de dette, alimentées par des politiques budgétaires expansionnistes, des taux d'intérêt élevés et des mesures de relance prolongées. Dans les marchés émergents hors Chine, la dette totale en dollars a également atteint des niveaux records avec de fortes augmentations au Brésil, en Inde et en Pologne. Pourtant, leur ratio dette PIB reste inférieur à 180%, soit 15 points en dessous du pic atteint pendant la pandémie.
Les États-Unis restent le plus grand emprunteur au monde en valeur absolue. Le Japon détient la plus grande part de dette publique américaine, soit 1,13 000 milliards de dollars, devant le Royaume-Uni avec un peu plus de 800 milliards et la Chine avec environ 756 milliards. À la mi-2025, la dette nationale américaine s'élève à 36 000 milliards de dollars, un record mondial. Le déficit budgétaire fédéral pour l'exercice en cours pourrait atteindre 1,9 000 milliards, après des dépenses dépassant les recettes de 1,63 000 milliards depuis le début de l'année fiscale.
La Chine prévoit d'émettre environ 11,86 000 milliards de yuan, soit 1,66 000 milliards de dollars, de nouvelles dettes publiques en 2025, avec un déficit budgétaire officiel proche de 5,7 000 milliards de yuan, soit environ 779 milliards de dollars.
Le Japon, déjà l'économie avancée la plus endettée en proportion du PIB, a atteint un record de 1 323,7 000 milliards de yens, environ 9,26 000 milliards de dollars, en mars 2025. Malgré cela, les prévisions révisées annoncent un léger excédent primaire, les recettes fiscales dépassant légèrement les dépenses hors intérêts.
Les économistes préviennent que, même si la baisse des ratios dette PIB est encourageante, l'ampleur absolue de la dette laisse les économies vulnérables aux chocs de taux d'intérêt, aux fluctuations monétaires et à une marge de manœuvre budgétaire réduite en cas de crise.
En politique internationale, le prochain sommet en Alaska entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine s'annonce comme l'un des rendez-vous les plus importants du second mandat de Trump. Les analystes estiment que l'issue la plus probable serait un cadre d'accord identifiant des domaines de coopération futurs entre Washington et Moscou en parallèle de toute négociation sur l'Ukraine.
Un tel développement représenterait un atout majeur pour le Kremlin, qui espère qu'à mesure que ce reset avancera, Trump sera plus enclin à soutenir Poutine dans les discussions avec Kiev. Pour l'instant, Poutine semble davantage intéressé par l'amélioration des relations bilatérales avec Washington que par un cessez-le-feu. Il a évité de provoquer les menaces de sanctions de Trump et arrive au sommet avec des gains militaires récents, un renforcement de son levier diplomatique, même si cela ne change pas fondamentalement le cours de la guerre.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le chancelier allemand Friedrich Merz ont participé le 13 août à une visioconférence avec Trump et d'autres dirigeants européens. Mais l'Ukraine et ses alliés ne seront pas présents en Alaska, donnant à Poutine tout intérêt à retarder les négociations officielles tout en consolidant ses positions sur le terrain.
Le chef du Kremlin devra toutefois avancer avec prudence. Trump s'est déjà irrité lorsque des avancées diplomatiques apparentes ont été suivies quelques heures plus tard de frappes aériennes russes pour éviter des pertes civiles que Trump a publiquement condamnées. Poutine pourrait proposer une pause limitée des bombardements, mais il est peu probable qu'il cesse complètement tant qu'il n'aura pas obtenu le contrôle total des quatre régions ukrainiennes revendiquées par Moscou en plus de la Crimée.
L'Ukraine, elle, a besoin d'urgence d'un cessez-le-feu et d'un accord de paix crédible, avec des concessions minimales et de véritables garanties de sécurité. Ses alliés européens se disent prêts à les offrir et Trump pourrait les soutenir, tout en laissant planer l'incertitude quant à un possible revirement lors d'un futur sommet à Troyes.
Pour l'heure, les partenaires européens de Kiev affirment qu'ils ne l'abandonneront pas. Mais rien ne garantit que Trump prendra le même engagement.
Pour finir, une actualité culturelle qui divise, l'entrée du mot Libok dans le Petit Larousse français suscite le débat en RDC. Pourquoi cette controverse autour d'un simple plat traditionnel?
Parce que la définition proposée plat de poisson ou viande enveloppée dans des feuilles de bananier est jugée réductrice. Le Libok a une dimension symbolique, consolidant l'identité et l'unité nationale, surtout sous Mobutu, où il figurait dans les slogans officiels.
Certains y voient une forme d'appropriation culturelle ou de simplification occidentale. Quelles pourraient être les conséquences de cette controverse?
Cela relance la réflexion sur la représentation des cultures africaines dans les médias occidentaux. À l'avenir, les éditeurs pourraient être amenés à consulter davantage d'experts locaux pour éviter de réduire une institution culturelle à une simple recette culinaire.